France Inter, le 18-20.
Vu le nombre d'appels au standard ce soir, il n'est peut-être pas utile de faire une introduction trop longue ni de vous aiguiller sur les sujets abordés parce que vraisemblablement, vous savez à peu près où vous allez. Mais enfin, si je vous les mets pêle-mêle dans l'oreille, comme ça, ça vient tout seul. Les évaluations des élèves plus fréquentes et plus étendues, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Le dédoublement des classes qui est étendu, est-ce que c'est la preuve que ça marche? Le portable interdit en classe, une mesure cosmétique ou bien utile, y compris d'ailleurs pour savoir où placer l'autorité de chacun? Alors cette réforme du bac qui est prévue, on le sait, dans 3 ans, mais du coup, ça concerne ceux qui entrent en seconde. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On verra si on fait un détour par la fac et par Parcoursup. Le ministre de l'Éducation nationale est tout à vous, donc profitez-en. Bonsoir Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne. Ce sont les auditeurs qui font l'émission, comme d'habitude, et c'est maintenant.
Il y a une synthèse. Le téléphone sonne.
Marion, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue et on vous écoute.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonsoir.
Voilà, moi aujourd'hui, j'appelle en tant que parent d'élève. Voilà, je suis maman de 2 petits garçons qui vont dans une école, dans une petite commune dans la Loire, à Saint-Jean-en-Bas. Et donc, nous avions la chance l'année dernière d'avoir une école avec 2 classes. Donc, nous étions 27 élèves. Et malheureusement, on a appris durant l'année dernière qu'une de nos classes allait fermer. Donc, on savait qu'on allait se retrouver en classe unique à la rentrée. Sauf que durant cet été, nos élus et nous, habitants, avons mis en place beaucoup de choses et nous avons réussi à attirer des nouvelles familles. Et nous avons eu 4 inscriptions supplémentaires durant cet été. On se retrouve cette rentrée avec 28 élèves sur une classe unique sur 8 niveaux. Donc on peut à peu près estimer que la maîtresse aura à peu près 30 minutes pour s'occuper de chaque niveau durant une journée. Et donc aujourd'hui, on est très inquiet par rapport à cette situation. On se dit que 28 élèves sur 8 niveaux, c'est pas gérable pour une seule personne. Et on se pose la question de la qualité de l'enseignement pour nos enfants. On voit qu'il y a le dédoublement des classes sur certaines zones et que ça se passe très bien et que forcément ça peut que bien se passer puisqu'ils sont très peu nombreux. Donc nous, on n'est pas jaloux de ceci, mais on aimerait simplement, nous, avoir en milieu rural les mêmes chances et avoir aussi la possibilité de réouvrir notre deuxième classe, puisqu'aujourd'hui, on pense que l'effectif est trop important, pour une classe et que ça serait bien avec 2 classes. Quoi.
Merci.
Donc voilà, merci.
Merci Marion pour cette entrée en matière. Jean-Michel Blanquer, des questions d'ailleurs autour de la différence entre écoles rurales et comment les écoles rurales sont traitées par rapport aux autres. Il y en a beaucoup comme ça au standard. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Marion?
Il y a 2 choses, une d'ordre général pour toute la France et puis une pratique concernant le cas évoqué. La chose générale, c'est que, bien entendu, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait l'auditrice, on ne doit pas opposer le rural et l'urbain, et je la remercie pour les propos très très...
Pas de jalousie, si
exactement,
dit,
mais
effet,
je trouve que c'est très bien dit ainsi, parce que, en effet, le sujet n'est pas là, le sujet c'est d'être attentif à tout le monde, et d'être d'ailleurs adapté aux situations de chacun, les sujets étant quantitatifs, c'est-à-dire le taux d'encadrement, mais aussi qualitatifs. Une école rurale n'a pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes besoins, et d'ailleurs les écoles rurales en France, je le dis toujours avec plaisir, les écoles primaires rurales réussissent mieux que la moyenne des écoles primaires en France. Donc, il y a une bienveillance vis-à-vis de l'école rurale aussi forte que vis-à-vis de l'école urbaine, et je suis vraiment le tenant de cette ligne. Les problèmes évoqués par l'auditrice ne sont pas nouveaux. C'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années en France. Notre manière de faire la carte scolaire fait que vers le mois de février, il y a une estimation de la situation démographique, et très souvent d'ailleurs, les inspecteurs d'académie annoncent une fermeture conditionnelle en attendant ce qui se passera d'un point de vue démographique au mois de septembre. Alors je voudrais donner maintenant une réponse générale et une réponse particulière.
Allez-y.
La réponse générale, c'est que le taux d'encadrement dans chaque département de France, en cette rentrée, s'améliore. Autrement dit, il y a moins d'élèves par classe en moyenne, et c'est encore plus vrai dans les parties rurales de la France, dans les départements ruraux. Et vous avez des départements comme le Cantal, la Lozère, où vous avez de 14 à 16 élèves par classe en moyenne, non pas en CP et CE1, mais de la petite section au CM2. Donc il faut bien voir que le problème ne se pose pas en termes de non-bienveillance de l'éducation nationale, parce qu'il y a plus de postes en réalité pour le rural que pour l'urbain, mais en termes d'évolution démographique du monde rural. C'est pourquoi j'ai une stratégie d'ailleurs pour contribuer à ce renouveau démographique, et nous en parlons souvent avec les maires. C'est la stratégie pour la création d'internats en milieu rural, c'est la stratégie pour le haut débit dans les écoles rurales, etc. Maintenant, sur le cas particulier de madame, eh bien, je voudrais lui dire quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'en fait, je connais son cas, ça fait partie des cas de dernière minute. Quand on passe un seuil, les inspecteurs inspecteurs d'académie sont capables de recréer la classe, et c'est ce qui va se passer dans son cas. Il y a eu un CTSD, je crois que c'était hier, qui a rétabli la classe. Donc ne croyez pas que c'est parce qu'on appelle que je réponds ça, hein, bien entendu.
J'allais exactement dire ça. Vous pouvez aussi appeler pour demander
c'est
de l'argent,
quelque chose
au ministre.
Je ne ferai pas ça à chaque coup de fil. Il se trouve que c'est comme ça. Je connais son cas et il est réglé. Et c'est assez typique de ce travail en finesse que nous devons faire. Donc on va se retrouver avec un taux d'encadrement favorable, comme cela arrive très fréquemment en milieu rural. Donc encore une fois, posons bien le problème et surtout que chacun soit conscient qu'il y a à la fois bienveillance et pragmatisme dans la façon de gérer les questions en milieu rural.
Eh ben Marion, vous voyez, vous êtes servi, mais revenez nous voir, cela dit, si vous ne la voyez pas ouverte, cette fameuse école. Mais effectivement, votre cas, il est réglé. Bonsoir Nicolas.
Merci beaucoup.
Je vous en prie Marion, revenez nous voir. Bonsoir Nicolas.
Merci. Au revoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors je ne sais pas si votre problème sera réglé Nicolas, mais posez votre question, je vous en prie.
Oui, ben merci. Bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonsoir.
Voilà, la dernière réforme de l'éducation prioritaire avait permis de donner plus de moyens pour les écoles et les collèges, mais il n'y avait rien de prévu encore pour les lycées et les lycées pro, qui devaient intégrer cette réforme dans un deuxième temps, ce qui nous avait été annoncé à l'époque. Et depuis, on attend toujours et on voit nos moyens se réduire. On voit ces lycées qui sont encore ZEP, voir la dénomination ZEP disparaître petit à petit, avec les moyens qui vont avec. C'est-à-dire les moyens pour avoir des effectifs réduits, pour avoir des équipes enseignantes qui sont stabilisées. Et donc, on craint que se retrouver avec des classes de lycéens surchargées, ingérables, qui sont déjà difficilement gérables. Moi, je suis en lycée pro actuellement, qui sont déjà difficilement gérables avec un effectif réduit, qui deviendront complètement ingérables à...
Vous avez combien d'élèves par classe dans le lycée ?
Eh bien ça, ça varie entre 18 et 24, 25. Mais voilà, avec si on n'est plus éducation prioritaire, ça sera beaucoup plus. Et donc, on attend, on nous avait promis l'intégration dans REP ou REP+, avec, on devait réétudier la carte de l'éducation prioritaire pour les lycées. Et depuis, on voit rien venir, on vous a jamais entendu, vous exprimer sur ce point. Donc, on comprend qu'il y a eu des moyens supplémentaires mis dans les écoles pour dédoubler les classes. Qui devrait à terme peut-être régler une partie du problème, sauf que ces élèves-là qui en bénéficient maintenant, nous en lycée, on les verra dans 10 ans.
Ouais.
Donc on peut pas être pendant 10 ans sans moyens pour gérer les élèves qui n'ont pas bénéficié des réformes actuelles.
Nicolas, merci beaucoup. Jean-Michel Blanquer, le lycée parent pauvre, dernier roue du carrosse en quelque sorte, c'est ce que dit Nicolas.
Merci monsieur, vous posez très bien le problème. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec la question précédente, c'est que vous voyez comment on peut se sentir... Là, il y a un sous-jacent qui est au fond, est-ce que le lycée n'est pas sacrifié par le fait qu'on met la priorité à l'école primaire ? Et en même temps, il y a suffisamment de hauteur de vue de l'auditeur pour se dire que, en effet, dans quelques années, c'est évidemment et le collège et le lycée qui vont bénéficier de cette priorité que j'assume, des moyens mis sur l'école primaire. Alors, c'est évidemment une toute petite partie de la réponse à faire à ce qui vient d'être dit, mais je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. D'abord, l'éducation prioritaire a une histoire, elle a maintenant pratiquement 40 ans. Cette éducation prioritaire, avec le temps, s'est beaucoup concentrée sur les collèges, en réalité. Ça a donc deux défauts, c'est de laisser en marge l'école primaire, pour laquelle on n'a pas fait tant de choses que ça depuis 40 ans sur le plan de l'éducation prioritaire, et puis le lycée. S'agissant de l'école primaire, nous avons décidé massivement d'avoir une vraie politique d'éducation prioritaire de l'école primaire pour aller à la racine des inégalités et c'est notamment, mais pas seulement, le dédoublement de CP et de CE1, dont je rappelle qu'il touche 190 000 élèves cette année. Et en effet, on peut espérer que, dans quelques années, l'effet en chaîne sur tout l'aval du système va se sentir. Et puis, il y a le lycée. Je fais un raisonnement assez différent pour le lycée, parce que je pense qu'on a une éducation prioritaire spécifique pour l'école et le collège, qui correspondent au socle commun, d'une certaine façon, à la première partie de la vie. Et puis, le lycée, c'est le moment où les choix commencent à pouvoir être faits. C'est d'ailleurs le sens aussi des réformes que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi je ne suis pas complètement certain que le concept d'éducation prioritaire soit parfaitement adapté au lycée, puisque je pense que on doit avoir en la matière une politique, je dirais, plus fine. C'est pour ça que je demandais le taux d'encadrement à notre auditeur, parce que très souvent, par exemple, en lycée professionnel, qui en réalité concentre l'essentiel de la difficulté sociale et donc pourrait coïncider la plupart du temps avec l'éducation prioritaire, le taux d'encadrement n'est pas le problème. Très souvent, on a le genre de chiffres qu'on a entendu et qui ont vocation à demeurer qu'on soit classé en éducation prioritaire ou pas. Donc, je pourrais évidemment être dans la facilité et dire oui, on va d'une certaine façon avaliser déjà l'existant et ces taux d'encadrement favorables en mettant l'étiquette éducation prioritaire. Je pense qu'on doit faire quelque chose de plus fin dans les temps à venir. C'est pour ça que j'ai d'abord, un, enclenché la réforme de l'enseignement professionnel qui est ma deuxième grande priorité après l'enseignement primaire. Et donc, je pense qu'une très grande attention à l'enseignement professionnel dans les temps qui viennent, c'est d'une certaine façon une politique profondément sociale. Et puis, évidemment, ça ne répond pas à tout. Mais le deuxième élément qui me paraît clé, c'est d'avoir désormais une réflexion générale sur l'éducation prioritaire, articulée à une réflexion sur les territoires. Et c'est pour ça que j'ai demandé un rapport sur cette question, sur la question que j'appelle territoire et inégalité, qui nous permettra de proposer cette politique de l'éducation prioritaire pour les lycées au cours de la prochaine rentrée scolaire.
Sonia Bourane, spécialiste éducation de France Inter, je ne vous avais pas présenté, pardon Sonia.
Bonsoir.
Qui est là aussi pour une remarque.
Pour une, peut-être une nuance aussi, vous parlez de votre politique en faveur des inégalités, notamment à l'école primaire, avec les dédoublements.
Contre les inégalités, oui.
Contre les inégalités avec l'école primaire, les dédoublements ne touchent que 20% des élèves. On sait que 70% des élèves en grande difficulté sont dans des classes ordinaires, et ça rejoint la remarque, la question de l'auditeur. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'attaquer aux autres établissements, c'est-à-dire pas se concentrer uniquement sur l'éducation prioritaire, quand on sait qu'il y a beaucoup de la majorité des élèves en difficulté sont dans les autres établissements.
Mais je pense que vous avez évidemment tout à fait raison, et c'est bien pour ça que tout à l'heure j'ai bien pris soin de dire ce n'est pas le seul élément politique. Il se trouve qu'on se concentre sur le 20% d'élèves qui sont dans les territoires les plus défavorisés, que ça coïncide avec une bonne partie de la difficulté sociale et de la difficulté scolaire, mais que ça n'en épouse pas la totalité. Je suis bien d'accord avec vous. D'où le sens de l'ensemble des autres mesures. Rappelez-vous que je parle de 100% de réussite en CP. Les évaluations en début de CP qui certainement font l'objet d'interrogations tout à l'heure font partie de cette stratégie. La remusculation pédagogique via la formation en particulier initiale et continue fait partie de cette stratégie. Et puis la mesure devoir fait qui aujourd'hui est au collège mais dans les temps à venir s'étendra progressivement vers l'école primaire est une mesure qui est faite pour individualiser le soutien scolaire gratuit aux élèves qui en ont le plus besoin.
Mais elle a un petit peu de mal à se mettre en place.
Il n'y a pas une réponse. On est toujours très exigeant avec l'éducation nationale, mais si vous voulez, c'est une mesure que j'ai annoncée en juin 2017, qui a été en place en novembre 2017, qui a commencé pas si mal que ça pendant toute l'année dernière, et en cette rentrée, nous garantissons dans chaque collège de France au moins 4 heures de soutien scolaire gratuit à toute famille. Quel que soit le territoire, quel que soit le lieu, à toute famille qui le demande pour un élève collégien. Et je l'ai vu encore lundi lors de la rentrée dans ce collège de Laval où nous étions, où le système démarrait très bien.
Marc, vous nous appelez du Nord. Bonsoir Marc.
Bonsoir Fabien de Saint-Est. Bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonsoir Monsieur.
Monsieur le Ministre, il y a beaucoup de monde qui vous encense pour votre sérieux, pour le fait que vous utilisez les découvertes des neurosciences sur les apprentissages. Mais pourquoi donc avez-vous laissé aux communes la possibilité de revenir à l'école de 4 jours ? Je tiens d'ailleurs à féliciter les 15% de maires qui ont tenu bon. En effet, il y a longtemps que les chronobiologistes disent qu'il faudrait pour les enfants une école de 5, voire même 6 jours. Alors, est-ce que vous n'avez pas cédé à la démagogie envers les parents, mais aussi envers les enseignants qui répugnent peut-être à se lever le samedi ? Et est-ce que cette renonciation ne va pas handicaper les enfants de France, quelles que soient les autres bonnes mesures que vous preniez par ailleurs ?
Merci pour votre question, Marc. Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous avez cédé aux pressions, notamment celles des parents?
Ça n'est pas mon style, et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi sur ce sujet je serais de cette tendance, tandis que sur d'autres sujets, je résisterai à la démagogie. Donc, je pense que il faut beaucoup de discernement sur ce sujet, et je respecte beaucoup ce que vous venez de dire, monsieur, parce que je sais à quel point c'est important. D'abord, le premier sujet, quelle situation j'ai trouvée ? La situation que j'ai trouvée était en aucun cas homogène et égalitaire. C'était une situation profondément inégalitaire. Vous aviez, d'abord, toutes les communes n'avaient pas le même rythme, elles n'étaient pas toutes à 4 jours et demi. Vous aviez beaucoup de communes qui avaient, au moins 20% d'entre elles avaient décidé de vaquer le vendredi après-midi, ce qui est, pour le coup,
pas
une
très bonne idée. Il y avait eu un choix laissé pour éviter que le changement se fasse de manière trop brutale.
On avait les inconvénients de plusieurs choses. C'est-à-dire l'inconvénient d'une décision verticale qui avait brusqué les les acteurs localement, et ce qui débouchait sur des situations très hétérogènes, avec des communes riches qui ont été, et souvent ce qui sont donc les grandes communes, qui ont réussi à faire des choses très intéressantes, que je salue, parce que je n'ai jamais dit qu'il fallait plutôt 4 jours que 4 jours et demi, ou l'inverse. Ce qui était important, c'était tout de suite de prendre une mesure qui permettait aux acteurs locaux de décider en fonction des circonstances locales. Donc cette situation, premièrement, était très inégalitaire, parce que l'organisation n'était déjà pas homogène. Mais en plus, vous n'aviez que 40% des élèves qui suivaient les activités périscolaires. Et par-dessus le marché, elles n'étaient pas toutes de très grande qualité.
Ça a été mal mis en place.
Donc,
c'est ça,
si vous
voulez,
on s'est beaucoup payé de mots sur ce sujet, et on me fait beaucoup la leçon sur cette question, mais des caractéristiques que je prétends avoir, c'est d'être pragmatique, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, telles que je les ai trouvées, c'est comme je suis en train de vous les décrire. J'ai donc préféré, avec le président de la République et le Premier ministre, bien sûr, avoir un système beaucoup plus pragmatique, qui donne le choix qui responsabilise. J'étais à Châlons, par exemple, à Châlons en Champagne, samedi dernier. Il se trouve qu'on a parlé de ça avec différents élus locaux, et notamment Benoît Apparu. Il me disait qu'ils avaient, à la faveur de cette mesure, organisé tout un débat local sur les rythmes, la façon de s'organiser, et qu'ils allaient prendre la décision à la lumière de ce débat local. Et donc, là où je divergerai de la présentation de l'auditeur, c'est que non seulement c'est pas de la démagogie, mais c'est au contraire de la responsabilisation. C'est-à-dire, on doit localement décider ce qui est bon pour nos enfants. J'ai jamais vu des parents d'élèves décider des choses négatives pour leurs propres enfants. Est-ce que, pour autant, je serais en contradiction avec ce que disent les chronobiologistes? Eh bien, ce que je dis depuis le début, c'est que aucune étude ne nous montre la supériorité des résultats des élèves qui vivent 4 jours plutôt que 4 jours et demi. Il y a 20 ans, dans les années 90, il y avait une hétérogénéité et c'était très à la mode de faire la semaine des 4 jours. Donc il faut avoir une vie, et ce n'est pas parce que, faut comprendre que c'est pas parce que les élèves apprennent mieux le matin que forcément la semaine de 4 jours et demi est supérieure à la semaine de 4 jours. D'autant plus qu'ils non, c'est une logique de premier degré. Je manque de temps pour expliquer, mais parce qu'il y a d'autres paramètres, tout simplement. Il n'y a pas que ce paramètre-là. S'ils sont fatigués, il est arrivé ce que beaucoup de gens ont constaté, c'est-à-dire que, par exemple, les élèves de maternelle étaient très fatigués. C'est pas pour rien que les gens ont pris cette décision. Mais ce que je voudrais dire maintenant, c'est que, un, on a maintenu le fonds de soutien aux communes qui sont restées à 4 jours et demi. Il n'y a pas d'incitation à aller vers 4 jours. Et deux, et cette fois-ci, pour aller dans le sens de l'auditeur, nous avons élaboré le plan mercredi. Ce plan mercredi est un appui aux communes pour qu'elles proposent des activités périscolaires de qualité. Ouais. On a doublé l'aide aux communes pour
ça.
Ça
veut dire qu'on n'y retourne pas, Jean-Michel Blanquer, en fait. En le faisant mieux, peut-être, mais on arrive en réalité à la semaine.
L'essentiel, c'est qu'on sorte de ce débat 4-4,5 qui n'est pas le vrai débat.
Mais est-ce qu'il ne fallait pas attendre d'avoir une étude, notamment grâce à vos évaluations, par exemple? On aurait pu
Premièrement, des études, on en avait et qui disaient ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'était neutre, en fait, 4 et 4,5. Et deuxièmement, ce que nous sommes en train de faire continue à être évalué. Et une commune pourra tout à fait revenir à 4,5 si elle le souhaite. C'est bien l'intérêt de la situation dans laquelle on est. Si dans 2 ans, telle commune constate que 4 jours n'est pas approprié, que les résultats ont sombré, eh bien, il sera toujours possible de revenir à 4,5 s'il en est ainsi. Moi, je fais le pari que le véritable sujet va être d'avoir une vision globale du temps de l'enfant à l'échelle de la semaine, qu'on fait en sorte, et c'est une des autres vertus du plan mercredi et de ce que nous faisons, de retisser un lien que la réforme de 2013 avait brisé entre le scolaire et le périscolaire. Autrement dit, de réimpliquer l'éducation nationale dans les enjeux du périscolaire, et notamment du mercredi. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est une approche très qualitative. Mais le vrai sujet, à mes yeux, c'est, et là je suis d'accord avec l'auditeur, c'est en fait la semaine de 5 jours, c'est-à-dire comment il se passe des choses valables pour les enfants du lundi matin au vendredi soir, comment dans ce mercredi nous réussissons à développer tout un tas de choses qu'on considère comme bonnes pour les enfants et qui parfois ont du mal à se positionner dans le temps scolaire. Je pense à la musique, je pense à la culture, au sport, aux activités de découverte de la nature. Et donc, on va aller vers le développement de ce périscolaire, mais sur des bases beaucoup plus saines et surtout des bases beaucoup plus voulues. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a 80% des gens qui sont en faveur de cette mesure, c'est que ce sont
et
des
mieux
bases
préparé.
Voulues.
Le problème du changement, c'était que c'était peut-être une préparation qui avait été compliquée. Je veux pas qu'on passe trop de temps non plus sur chacun des sujets, si vous le voulez bien. Brigitte nous attend, vous êtes assistante de vie scolaire. Brigitte.
Oui, bonsoir à tous. Alors, bonsoir, je voulais déjà faire une petite aparté, parce que bien entendu, les enseignants, en cette rentrée des classes, sont sur le devant de la scène, ce qui est bien normal, mais nous, assistantes et assistants de vie scolaire, nous sommes toujours les oubliés de ces rentrées. Donc, on ne parle pas très souvent de nous, de nos conditions de travail et de nos rémunérations qui sont indécentes. À Alors, monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelles vont être les mesures prises par le gouvernement dans les prochains mois afin que notre travail soit enfin reconnu au sein de l'éducation nationale avec des formations diplômantes et des grilles indiciaires de rémunération décente, car nous gagnons une misère pour le travail que nous fournissons comme nous aimons notre travail et que c'est extrêmement difficile de s'occuper d'enfants en situation de handicap au sein des écoles. Voilà, monsieur le ministre.
Merci. Brigitte, et Jean-Michel Blanquer va vous répondre.
Merci madame. Alors d'abord, votre question est très, très légitime et le sujet que vous abordez est extrêmement important. Il a deux volets d'ailleurs, c'est comment nous améliorons la qualité de l'accueil et de la scolarisation des élèves handicapés et comment nous sommes attentifs évidemment aux bonnes conditions de travail des personnes concernées, c'est-à-dire les AVS. Et bien entendu, les deux sujets vont ensemble. Autrement dit, je considère totalement, et je vais dans votre sens, que si vous avez de bonnes conditions, vous, eh bien, vous serez en meilleure situation pour accueillir les élèves. En deux mots, un, l'objectif, et nous y sommes, c'est l'école inclusive, c'est-à-dire notre capacité à accueillir tous les élèves ayant handicap, ou presque, en tout cas, à chaque fois d'avoir une solution personnalisée pour chaque élève. Comme vous le savez, leur nombre a beaucoup augmenté ces dernières années, parce qu'ils sont plus pris en compte, c'est plus de 300 000 élèves en cette rentrée, et nous avons plus de 80 000 accompagnants pour les accompagner. J'ai tout à fait pris en considération la question de la précarité des AVS, que vous soulignez. Je rappelle que quand je suis arrivé, il y avait 50 000 contrats aidés sur ce sujet. Il y avait autour de 24 000 ce qu'on appelle des AESH, c'est-à-dire des contrats plus robustes, mieux payés. Je ne sais pas si c'est la catégorie à laquelle vous appartenez. Mais en gros, un AESH gagne autour de 1300 euros net, ça dépend des circonstances, tandis qu'un contrat aidé, c'était autour de 600 euros. Conformément à la politique générale du gouvernement, nous avons baissé le nombre de contrats aidés. Donc il y a moins de contrats aidés, c'est descendu à 30 000, mais symétriquement, nous avons plus que proportionnellement créé des postes d'AESH. Et ces postes d'AESH ont comme caractéristique d'être mieux payés. Ce sont des CDD qui peuvent devenir des CDI au bout de 6 ans, dans la proportion que je viens de dire. Et deuxièmement, ils sont accompagnés d'une formation. 60 heures de formation annuelles sont garanties à chaque AESH. Mon ambition, c'est aussi que la formation soit systématique pour les professeurs, parce qu'en fait, et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la maison éducation nationale qu'on doit avoir bien formé sur ces sujets, y compris pour être dans le partenariat avec des institutions extérieures dont nous avons besoin pour cela. Mais en tout cas, la question de la scolarisation des élèves handicapés est au premier rang des priorités du gouvernement. Et lorsque j'ai été avec le président de la République lundi à Laval, c'était notamment dans une classe Ulysse et c'était avec la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Donc c'est au premier rang de nos priorités. Les AVS, madame, je vous le dis, vraiment méritent toute notre considération et croyez-la, vous l'avez sans aucune réserve de ma part. Et il y a un travail concret qui est fait parce que cette rentrée est clairement une amélioration pour les AVS par leur nombre qui a augmenté, par la formation qui s'amplifie. Et bien entendu, on peut faire mieux, hein, je suis tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs ce que nous planifions pour les rentrées suivantes.
Alors, pour ce qui est des assistantes de vie scolaire comme Brigitte et puis les enseignants nous disent aussi, si on a un mail sur franceinter.fr, je cherche le prénom que je ne trouve pas, c'est pas grave. Si l'enseignement est une priorité nationale, pourquoi les salaires sont-ils si bas, deux fois plus bas qu'en Allemagne? Par exemple, le dernier des grands pays européens, la promesse de revalorisation de M. Macron va-t-elle passer à la trappe? Jean-Michel Blanquer.
Alors c'est un vaste sujet qui d'ailleurs comme tous les sujets que nous avons abordés ne date pas de notre arrivée au pouvoir. Je voudrais quand même le signaler aussi. Nous sommes là depuis un peu plus d'un an et vous noterez que sur chacun des points, il y a des évolutions qui, à mes yeux, sont positives.
Mais chacun s'en empare, chaque ministre l'un après l'autre. Et notamment les revalorisations salariales, effectivement, faisaient partie des promesses d'Emmanuel Macron.
Tout à fait. Donc, d'ailleurs, sur certains points, ça a commencé. Alors là aussi, il faut faire un diagnostic fin, puisque si on compare à d'autres pays, il faut voir de quelle catégorie de professeurs on parle. C'est pas la même chose de parler d'un professeur des écoles débutant en France et d'un professeur agrégé de classe préparatoire. Il y a donc un vaste spectre et selon les degrés qu'on considère, le retard français n'est pas le même. Mais il est exact que sur certains points, comme le professeur des écoles débutants, il y a un retard à rattraper et je suis concentré sur cet objectif. Dans un contexte budgétaire que nous avons tous contraint et ça ne fait plaisir à personne, pas à moi pas plus qu'à quiconque, d'être obligé de tenir compte de cela. Néanmoins, le budget de l'éducation nationale a augmenté à la rentrée dernière, augmente à cette rentrée. nous donne quelques marges, c'est ce qui nous permet d'accomplir déjà l'un des premiers engagements.
Salaire des profs, Monsieur Blanquer, pardon, c'était le sens de la question.
Oui, oui. Ben, la prime en REP+, c'est déjà un premier élément d'augmentation du pouvoir d'achat des professeurs, c'est déjà
1 000 euros
par an, et ça va être plus dans les temps qui viennent. On a un dialogue social pour cela. Et par ailleurs, le dialogue social que j'ai ouvert au mois de mai, et qui dure sur plusieurs mois, va nous permettre évidemment de considérer ces enjeux de revalorisation salariale. En tout cas, la question est bien entendu totalement légitime, et après, il faut qu'on évolue de façon juste.
Allez, Valérie, tiens, nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonsoir Valérie. Valérie, vous êtes là ou pas?
Vous m'entendez?
Eh mais absolument, je vous entends. Et Jean-Michel Blanquer aussi, donc allez-y, profitez-en.
Oui, bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonsoir Madame.
Alors moi j'avais une question au sujet des options de seconde. Les élèves ont la possibilité de choisir plusieurs options, des enseignements exploratoires, des enseignements optionnels, etc. Il se trouve que dans les faits, c'est le cas de mon fils qui a choisi une option au moment où il s'est inscrit dans son établissement, dans son lycée. Et il s'est inscrit en pratique et méthode scientifique. Mmh. Et en fait, il se retrouve dans une classe dans laquelle il va faire une option littérature. Et il se trouve que dans son établissement scolaire, il n'y a qu'une classe qui fera cette option pratique et méthode scientifique, et la grande majorité des élèves vont se retrouver à faire de l'option littérature. Alors, est-ce que c'est faute d'enseignants? Je ne sais pas, mais moi, ma question, c'est comment faire en sorte que ces options puissent être effectivement choisies et choisies concrètement par les élèves? Comment ils peuvent avoir accès à ces options?
S'il n'y a pas de choix, c'est plus une option, en quelque sorte.
Voilà, exactement, parce que c'est assez décourageant pour les élèves de leur donner des possibilités, puis en fait, qu'ils se retrouvent à suivre un enseignement qu'ils n'ont pas choisi. Donc finalement, c'est assez contre-productif. Je comprends bien que les établissements scolaires ont des problèmes de moyens, probablement, mais selon vous, qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour mettre en œuvre effectivement cette réforme et donner la possibilité aux élèves de faire des choix d'options réellement?
Voilà. Alors, merci. Merci madame. Il est évident que la réforme du baccalauréat et la réforme du lycée qui s'ensuit, qui donc entre en vigueur pleinement au cours des trois années actuelles, c'est-à-dire dans la rentrée 2018, 2019 et 2020, va répondre à votre question, puisque l'objectif c'est justement d'ouvrir beaucoup plus de choix aux lycéens. Donc il y a dans le futur, vous le savez sans doute, c'est surtout à partir de la classe de première que les grands choix commencent, notamment en choisissant trois domaines de spécialité et ensuite en classe de terminale en choisissant deux, donc 3 fois 4 heures en première, 2 fois 6 heures en terminale. Il y aura aussi des options comme c'est le cas aujourd'hui, mais peut-être plus développées avec des nouveautés, par exemple des maths expertes pour prendre un seul exemple, mais aussi les langues anciennes se seront valorisées dans ce cadre-là. Et donc nous avons un système qui permettra beaucoup plus le choix. Alors on aura toujours le sujet de ne pas pouvoir offrir tout partout de la même façon, c'est évident. D'où le fait qu'on va aussi plus travailler en réseau de lycées chaque fois que c'est possible. Et en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que, et ça se verra surtout à la rentrée prochaine, celle de 2019, les élèves de première seront vraiment en situation de faire leur menu, si je puis dire, à partir de leur goût et sur une base de diversité d'options garantie dans chaque lycée. Et c'est ce spectre d'options que nous sommes en train de travailler en ce moment pour la rentrée prochaine.
Sonia. Mais est-ce que vous aurez vraiment les moyens en matière de ressources humaines de proposer ces différentes spécialités? Vous disiez, bon, sur plusieurs lycées, mais on imagine que, par exemple, des élèves qui voudraient plus axer sur SVT ou philosophie, est-ce qu'il y aura assez de professeurs?
Oui.
Pour leur enseigner ces spécialités.
Oui, ce qui est certain, c'est qu'on va clairement, on ne va pas vers l'infini, on ne va pas vers l'absolu des combinaisons, parce que si vous avez, comme vous avez 12 spécialités, si vous faites le calcul, vous verrez, c'est évidemment un chiffre très important si on faisait toutes les combinaisons de 3 matières en première et de 2 matières en terminale. Donc on doit être raisonnable, bien sûr, et dès le début, j'ai dit que ce serait un chiffre autour de 7, et c'est ce que je suis en train de confirmer, c'est-à-dire qu'il va y avoir 7 spécialités qu'on garantira dans chaque lycée, et vous voyez déjà que la combinaison de 7 spécialités, ça fait déjà beaucoup plus que les 3 séries actuelles, elles, ES et ES. Donc on n'enferme plus les lycéens dans un couloir, on leur propose de composer un menu. Et en plus de ces 7, vous en avez 5 que vous ne trouverez pas à chaque fois, mais dans les disciplines que vous avez citées, oui, vous les trouverez à chaque fois. Il y aura bien sûr SVT à chaque fois. Bien sûr qu'il y aura la discipline qu'on appelle humanité, littérature, philosophie, qui est une des nouveautés intéressantes dès la classe de première et qui s'ajoute ensuite en terminale aux 4 heures de philosophie que tout le monde aura. On a donc des possibilités, on a donc un moule de possibilités qui sera garanti à tous autour à partir de 7 spécialités. Et puis vous en avez 5 qu'on ne trouvera pas partout, mais qu'on trouvera dans des réseaux de lycées et qui correspondent de toutes les façons à des nouveautés, donc des choses qui aujourd'hui ne sont pas là. Exemple typique, l'arrivée de sciences informatiques, discipline au pluriel, qui est une des grandes nouveautés importantes. Ce ne sera pas dans chaque lycée, mais ce sera dans un grand nombre de lycées, et c'est évidemment une richesse supplémentaire dans ce qui est offert aux lycéens.
Allez, Frédéric est en ligne. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, monsieur.
Je me permettais d'appeler ce soir en fait pour poser une double question et pour vous parler rapidement de moi. J'ai 40 ans, je suis ingénieur de formation et actuellement depuis 2 ans je suis vacataire. Et il découvre que je suis passionné par ce que je suis vacataire en SVT. En fait, ma question est à la fois, elle est double. La première, c'est par rapport aux vacataires, aujourd'hui on est dans une situation assez inconfortable, où la précarité est très très forte. Et heureusement que mon conjoint, mon épouse peut m'aider, financièrement, parce que ça serait totalement impossible. Et puis, donc ça c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est par rapport à la reconversion professionnelle. J'ai pu lire un article dans Le Monde cet été, où il y avait une forte volonté de proposer à des gens comme moi, 40 ans, avec une volonté de faire autre chose de leur vie et de rentrer dans l'éducation nationale. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi et on est des gens qui avons beaucoup d'enthousiasme dans ce projet.
Merci beaucoup pour votre question, Frédéric. Jean-Michel Blanquer, la question est connexe, elle vient de Thibault, je vais mettre les deux à la fois. Je suis remplaçant en français, j'ai attendu un poste tout l'été, le rectorat m'a enfin appelé vendredi à 16h pour prendre mon poste lundi matin à plein temps. Je me trouve à devoir faire des cours dans l'urgence dans un établissement que je ne connais pas, situé à 1 heure de route. Monsieur le ministre, que faites-vous de nos conditions de travail? Donc la remplacement, d'abord la réponse à la question du vacataire, Frédéric.
De la première question, alors c'est ça.
Ouais.
Alors vous avez bien lu, monsieur, et vous avez raison. D'abord, je vous salue parce que je pense que ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un dit j'ai la passion d'enseigner et j'ai envie d'en faire mon métier. Donc, et votre profil est tout à fait bienvenu dans l'éducation nationale. Et en effet, je l'ai déclaré à plusieurs reprises cet été. Parce que c'est le sens du travail que nous sommes en train de mener. On observe un phénomène de société qui est intéressant, c'est-à-dire, et certainement ça existe parmi les gens qui nous écoutent, des personnes qui, autour de 40 ans ou à un autre âge, se disent qu'ils veulent vivre une deuxième carrière dans l'éducation nationale. Je trouve ça formidable, parce que ça montre bien que l'éducation nationale, loin de certains clichés, est en fait une maison très attractive et qui a beaucoup de sens et qui fait envie à ceux qui veulent y travailler. Bien entendu, il faut réunir un certain nombre de qualités, mais on va travailler, c'est un projet qui va aboutir au cours des prochains mois, dans le cadre du dialogue social dont je parlais tout à l'heure, à un système nous permettant bien d'attirer par des formes, par une sorte de concours spécifique, par des moyens appropriés qui restent à discuter, attirer des profils comme le vôtre et permettre de les stabiliser. Et là, je réponds un peu à la deuxième question
c'est que
si vous voulez, l'objectif n'est pas de garder des vacataires, enfin, ce n'est pas bien que quelqu'un soit vacataire éternellement, je suis tout à fait d'accord. Qu'il y ait pendant un certain temps un statut de vacataire pour quelqu'un et que il y ait le genre de souplesse qui ont été décrites par l'auditeur, ça existe depuis toujours et ça existera toujours un peu, mais parce que c'est ce qui fait partie de la souplesse du système. Mais bien entendu, ça ne doit pas devenir la norme et on ne doit pas positionner les gens en situation de précarité durablement et c'est pour ça que nous allons faire le travail que je viens d'indiquer.
Allez, sur franceinter.fr, c'est Julie qui nous écrit de Paris. Comment les nouvelles évaluations des élèves seront-elles utilisées ensuite? Le travail des professeurs pourra-t-il être remis en question? En gros, quand les évaluations ne sont pas bonnes, est-ce que c'est la faute des profs?
Non, pas du tout. Alors, pardon, je n'étais pas certain de saisir. Ce qui est très important cette rentrée, c'est que nous avons des évaluations qui sont des outils pour aider les élèves. Donc nous avons, vous le savez, des évaluations de début de CP, des évaluations de milieu de CP, des évaluations de début de CE1, des évaluations de sixième, début de sixième, et puis nous avons aussi ce qu'on appelle le test de positionnement en début de seconde. À chaque fois, même si c'est un peu différent, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire un portrait de l'élève permettant ensuite de l'aider mieux pédagogiquement. Faire de cela aussi un outil entre la famille et l'école, puisque on doit pouvoir transmettre les résultats le plus rapidement possible aux familles. dans un objectif pour lequel tout le monde doit être très détendu, c'est-à-dire l'objectif, c'est tout simplement aider l'élève. Mmh. Il n'y a pas de lien à faire entre
mais
ça.
Mais les profs sont pas très détendus, c'est pour ça que
oui,
je
oui, mais ils sont pas très détendus parce qu'il y a toute une série de gens pour tenir des discours
parce
d'angoisse.
Que c'est une culture de l'évaluation qui
mais
est
non,
à l'autre,
mais d'abord, les professeurs connaissent, ont une culture de l'évaluation. Mmh. D'abord eux-mêmes, ils en ont traversé. Mmh. Et ensuite, eux-mêmes en font. Mmh. On part pas de zéro. Il y a des évaluations de début de sixième depuis très longtemps. Mmh. Simplement, on est dans une situation très hétérogène avec des endroits où on les fait, des endroits où on les fait pas. Et vous savez, nous sommes un grand service public de l'éducation nationale. Et on est normalement tous très fiers de cela. Il faut en tirer les avantages. Un des avantages, c'est que nous sommes le pays capable d'élaborer, pour, grâce à notre masse critique, pour l'ensemble des CP de France et des autres classes que j'ai citées, des évaluations de très haut niveau, des évaluations très très bien pensées par les meilleurs spécialistes. Et d'ailleurs, à votre antenne, Stanislas Dehaene a expliqué ça très bien
avant-hier
matin. Ouais. Tout à fait. Et donc, soyons heureux de cette situation. Elle est faite uniquement pour aider les élèves et c'est un peu dommage que certains cherchent à tout prix à créer de l'angoisse. En tout cas, moi, mon message aux professeurs, mais je sais parce que je suis sur le terrain ouais. Et je vois bien, en réalité, ils le perçoivent bien, mais je souhaiterais que ce soit le cas de tous les professeurs parce qu'il n'y a aucun plan caché derrière ça. Le but, c'est aider les élèves.
Sonia Bourin.
Mais est-ce que vous mettrez des moyens pour mettre en place une aide personnalisée pour les élèves qui ont de mauvais résultats dans ces évaluations? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que les professeurs seront formés pour, par exemple, utiliser d'autres pédagogies?
Totalement. C'est bien quand on dit priorité à l'école primaire, c'est quand même 4000 créations de postes encore cette année. Ce sera encore des créations de postes en 2019 à l'école primaire. C'est des taux d'encadrement qui deviennent plus favorables. C'est l'aide personnalisée qui est déjà inclue dans le service des professeurs qui va être réellement activée de façon à ce que justement on tienne compte des évaluations et en se concentrant beaucoup sur le français et les mathématiques pour être certain que nous crantons ces compétences fondamentales dans les premières années où elles doivent l'être, parce que sinon on cumule des retards ensuite. Et puis c'est effectivement toute une évolution pédagogique sur laquelle j'ai eu beaucoup l'occasion de m'exprimer en arrivant et qui commence à se traduire dans les faits et qui est à la fois une élévation du niveau général, un élément de justice sociale parce qu'il y a évidemment cet enjeu aussi derrière et aussi un élément de personnalisation des parcours. Nous allons de plus en plus, grâce à l'évaluation, vers cette capacité. Prenez le sujet des élèves intellectuellement précoces. C'est un phénomène de plus en plus pointé. Il est évident que ça suppose là aussi un dialogue famille-école et aussi une évaluation claire de la situation de l'enfant et surtout des forces de l'enfant autant que de ses difficultés.
Jean-Michel Blanquer, tiens, ça nous ramène un peu vers l'actualité. D'ailleurs, cette question sur franceinter.fr, les programmes scolaires insistent sur l'éducation à l'environnement. Et si les cantines scolaires se mettent au bio, très bien, pourquoi pas au sans plastique, réduire l'exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens aussi à l'école, n'est-ce pas une priorité?
C'est extrêmement important. Cela relève plutôt de la compétence des collectivités locales, mais je ne me déresponsabilise pas sur un tel sujet. C'est d'ailleurs pour cela qu'on va créer une sorte de cellule de conseil avec la Caisse des dépôts et consignations de conseil aux collectivités locales pour les accompagner dans les démarches de plus en plus excellentes qui sont menées depuis quelques années. J'observe sur le terrain de plus en plus de cantines circuits courts, mm-hmm. de plus en plus de démarches de ce type. Et si vous voulez, d'ailleurs, j'en parlais même avec François de Rugy dès ce matin de l'arrivée dans ses fonctions. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec Nicolas Hulot, donc on est prêt en quelque sorte à avancer. C'est-à-dire, en matière de développement durable, si vous voulez, beaucoup a été fait ces 20 dernières années, et donc je pense qu'on est bien à jour sur les programmes, sur ce que nous disons aux élèves. Mais maintenant, nous devons faire beaucoup mieux en ce qui concerne l'action, c'est-à-dire l'engagement des élèves et l'engagement aussi des institutions. Et là, c'est évidemment un sujet de partenariat entre les collectivités locales et l'État, et je suis tout à fait disposé à avancer très fortement sur ce point.
Ils sont sûrement un âge.
Et par exemple, vous voyez, avec Brune Poirson, on a là une opération de récupération des piles dans les écoles, et toute une série de sujets qui, quand vous les additionnez, ben, font une société du développement durable qui progresse.
Sûrement un âge où ils savent très bien que le plastique, ça ne sert à rien. Ça sert à rien partout, etc. Pourquoi pas l'occasion d'en profiter. Le dernier qui vous pose une question ce soir, c'est Gemma. Salut Gemma.
Bonsoir.
Eh ben, on t'écoute.
Bonsoir Monsieur le Ministre, j'aimerais vous poser une question.
Oui Gemma, vas-y.
Est-ce que quand vous étiez petit, est-ce que l'école d'avant, est-ce que c'était un peu difficile par rapport à aujourd'hui?
Alors, c'est pas une question facile, mais c'est une très bonne question. Tu vois, c'est la seule question à laquelle je n'arriverai pas à répondre ce soir. Parce que je pense qu'il y avait des choses plus difficiles et des choses plus faciles.
En tout cas, vous avez passé un bac qui a une lettre qui n'existe plus, ça
oui,
c'est sûr.
Exactement. Et donc, je pense que ce qui était peut-être plus difficile, c'est que il y avait parfois des exigences plus grandes, par exemple en orthographe. Et je pense que aujourd'hui, on doit être aussi très exigeant en orthographe, parce que entre toi et moi, il n'y a qu'une différence d'âge, mais j'étais un enfant comme toi, et quand on était exigeant avec moi, ça m'a aidé plutôt que ça m'a gêné. Donc je pense que tu vois, l'intérêt, c'est que on réussisse à ce que tout le monde ait le plus haut niveau possible à l'école. Donc je pense que sur certains sujets, c'était plus difficile, mais sur d'autres, c'était sans doute plus facile. Hein. Ça dépend de quoi on parle.
Ben voilà, on a compris. Merci beaucoup, Gemma. On a compris au passage, Gemma, que la réforme du participe passé façon belge, c'était pas votre truc,
non,
Jean-Michel Blanquer.
C'est pas ma tendance.
Merci beaucoup.